Le 18-19 régional, Élise Lemaire, François Bertin.
Si sa vie était un roman, il se nommerait Voyage au bout de l'info. Comme Tintin, elle a le goût de l'aventure et du voyage, mais sans la houppette et sans Milou. Mais avec toujours un bon reportage dans la besace, c'est Élise Lemaire, bonsoir.
Bonsoir François Bertin.
Alors Élise, on vous retrouve en compagnie de votre invité du jour, c'est Claire Turand, fondatrice des éditions Perra.
Bonsoir Claire Turand.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir pour parler de la maison d'édition que vous avez lancée il y a un peu plus d'un an, les éditions Perra. Une édition dédiée à la jeunesse avec un accent mis sur le ludique. On y reviendra. Quelle était l'intuition de départ ?
Il y a eu deux envies au démarrage. L'envie de créer une maison d'édition, qui est en fait une envie lointaine, parce que j'ai toujours aimé lire et j'ai travaillé dans l'édition. Et je pense que voilà, c'est un projet entrepreneurial que je portais, mais que j'ai osé, on va dire, concrétiser. Et puis la deuxième intuition, c'est parce qu'à partir du moment où on se dit voilà je vais lancer ma maison d'édition, il faut savoir comment on peut être un peu différent et qu'est-ce qu'on va faire. Il existe tellement de choses aujourd'hui tellement de choses formidables que c'est compliqué aussi de voir ce qu'on pourrait apporter de plus. Il se trouve qu'en parallèle, j'avais eu l'occasion de découvrir les soirées enquêtes. J'avais fait jouer mes enfants pour un anniversaire à un scénario de soirée enquête que j'avais trouvé sur Internet et j'en avais qu'une expérience formidable. Et je me suis dit, c'est dommage qu'on puisse pas accéder plus facilement à ce concept de jeu qui est immersif ou qui est collaboratif, où on rentre dans un univers de fiction. Et à partir de là, j'ai essayé de voir comment on pouvait imaginer une collection de livres-jeux qui pourrait se prêter à ce type d'expérience. Et ça a permis de démarrer mon programme éditorial.
Et ça a donné le livre des enquêteurs dont on parlera dans quelques instants.
Le 18-19 régional, Élise Lemaire, François Bertin.
Le grand invité du soir, c'est avec vous Élise Lemaire, et ce soir vous recevez donc Claire Turand des éditions Perra. Et comme c'est votre émission, si vous avez la moindre question pour notre invité, envoyez-nous un message privé via notre Facebook.
Et on parle avec vous donc ce soir, Claire Turand, des éditions Perra que vous avez donc créées, fondées en 2017. Fonder une maison d'édition de nos jours, c'est plutôt risqué, non ?
Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que finalement, je pense qu'au départ, on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de budget, je veux dire, par rapport aujourd'hui à ce que peuvent nécessiter des startups ou des choses où on investit beaucoup. Finalement, je trouve que produire un livre, c'est pas extrêmement coûteux, c'est pas un risque financier qui est lourd. Là où c'est risqué, c'est plutôt dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on va pouvoir, mois après mois, trouver les débouchés commerciaux et puis tenir pour pouvoir constituer un catalogue qui a un peu de cohérence et puis qui peut permettre d'être rentable. Et je crois que la difficulté, elle est plus dans la durée qu'au démarrage, où finalement, je pense que... Tout à l'heure, je parlais d'oser. Je crois que c'est à partir du moment où on ose... on voit aujourd'hui, finalement, beaucoup de gens s'auto-éditent. C'est pas très compliqué, finalement, de produire un premier livre. La question, c'est plutôt de continuer.
Trois ouvrages sont déjà parus. Vous êtes déjà rentable ?
Non, pas pour le moment. Pour le moment, moi, c'est encore une passion pour moi, j'allais dire. J'ai eu plutôt des bons résultats sur les premiers exemplaires, sur la première collection, mais qui est pas encore suffisant pour que je puisse me payer. Et puis donc, c'est important de continuer à chercher des débouchés commerciaux, notamment, ça c'est clé.
Plusieurs ouvrages sont déjà parus. Donc, je citais le livre des enquêteurs. Alors, c'est pas tout à fait un livre. Hein. De quoi s'agit-il ?
Non, c'est un livre-jeu. Alors, c'est un mi-chemin quelque part entre le Cluedo et le livre dont vous êtes le héros. Donc, ça se présente sous la forme d'un livre, mais on va pouvoir le découper, écrire dedans, et surtout, ça se joue à plusieurs. Alors, un livre souvent c'est solitaire, mais là, c'est un livre qui invite à jouer. Alors, entre 3 et 6 joueurs, idéalement 6 joueurs. Et le point commun avec la fiction, c'est que chaque joueur va incarner un personnage de l'histoire. Donc on a une enquête de type policière avec un mystère qui s'est déroulé, une disparition, un meurtre, un vol. Et on a dans le livre des cartes personnages. Donc chaque joueur va choisir un personnage et il va avoir un objectif secret. Son objectif secret, c'est soit de pas être découvert parce que le coupable fait partie des joueurs, soit de découvrir le coupable. Donc on a comme ça, on joue entre 1h15 et 1h30, à la fois un jeu de déduction, dans un univers de fiction qui est assez riche, avec des vrais personnages qui ont des histoires et des parties de lecture à voix haute notamment, et on va avoir un peu de jeu de rôle parce que le coupable, lui, veut pas être démasqué et donc il va essayer d'induire les autres en erreur.
C'est à partir de quel âge ?
C'est plutôt à partir de 9 ans. En dessous, c'est compliqué pour les enfants de mentir, c'est-à-dire de pas dire qu'ils sont coupables. Donc 9-10 ans, c'est bien. Et on peut jouer en famille, par exemple. Ça, c'est très sympa, mélanger les âges, les générations. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient comme ça en famille.
Qu'est-ce que c'est censé susciter chez les enfants ?
Bon là, le premier, ce que j'avais envie de proposer, c'était tout simplement le plaisir du jeu, c'est-à-dire l'immersion dans un univers. On voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aime. On voit par exemple beaucoup le développement des escape games, et c'est vrai que le fait d'être à plusieurs, immergé dans un univers, ça procure un plaisir particulier, qui était celui que je recherchais en fait quand j'ai créé la collection. Et puis je me rends compte qu'il y a des bénéfices secondaires, par exemple la question d'être en groupe, de savoir s'écouter, parce qu'en fait quand le jeu commence à prendre un peu d'ampleur, tout le monde parle en même temps, les enfants crient, s'écoutent pas, etc. Donc il y a aussi cette question de régulation qui se pose, est-ce qu'on peut s'écouter, est-ce qu'on peut faire entendre ses idées. Il y a une partie de lecture à voix haute qui est intéressante aussi parce que ça permet de la prise de parole. Donc je me rends compte qu'il y a effectivement des intérêts un peu pédagogiques, mais j'ai pas forcément recherché au départ, mais qui sont intéressants.
Et les enfants osent lire par exemple à voix haute devant leurs camarades?
Alors au début du jeu, on va choisir un animateur. En général, c'est l'enfant qui lit le mieux, peut-être le plus âgé par exemple. Puis après, on peut imaginer qu'ils lisent chacun leur tour, mais on voit que oui, bien sûr, les enfants osent. Alors dans un petit groupe, il y a toujours des enfants qui vont être peut-être un petit peu plus effacés. Donc là, si un adulte est là, c'est aussi l'occasion de faire en sorte que tout le monde prenne la parole. Mais le jeu peut se jouer en totale autonomie. C'est-à-dire, je voulais que les enfants puissent jouer seuls, pas forcément qu'un adulte soit obligé d'organiser les choses. Donc en fait, le livre est fait de telle sorte qu'il suffit de lire de suivre le déroulé du livre.
Les livres-jeux, est-ce qu'ils ont encore leur place à l'heure des jeux vidéo ? Est-ce que c'est compliqué d'imposer ou de proposer un livre-jeu de nos jours ?
Alors, c'est une bonne question, je ne me suis pas forcément posée, donc je vais y réfléchir en même temps que je réponds. Moi, j'observe quand même qu'en librairie, c'est un rayon qui existe, qui se développe. Et je parle notamment autour aussi de cette notion d'escape book, parce que le concept d'escape game se décline aussi en livre.
Vous allez d'ailleurs vous lancer dans cette voie aussi l'année prochaine. Cette année, on y reviendra.
Excusez-moi, j'ai perdu ma deuxième idée.
La concentration aussi des enfants qui est différente. Hein, quand on lit, quand on joue un livre-jeu, quand on joue un jeu vidéo, c'est pas la même non plus, c'est pas les mêmes choses.
Alors,
qui sont sollicitées.
Voilà, le point commun du coup avec le jeu vidéo, j'ai retrouvé mon idée, c'est l'immersion. C'est que je pense qu'en fait, on peut retrouver le plaisir d'être immergé dans un univers à travers ce livre-jeu, de même que dans un jeu vidéo. Et la question de la concentration, oui, elle est sans doute, elle est présente là, puisqu'il faut essayer de réfléchir et réfléchir ensemble. Et c'est pas forcément évident, parce qu'en fait, il faut pouvoir déduire des choses avec des indices, ça c'est ce qui est proposé dans le livre. Ça nécessite de pouvoir s'écouter les uns les autres et pouvoir prendre ce qui est bon et ce qui est moins bon dans ce qui a été dit par les propositions d'hypothèses des autres.
Le livre des enquêteurs, c'est donc une collection que vous avez fait paraître cette année. Il y a d'autres œuvres à venir. On continue d'en parler dans quelques instants.
Le 18-19 régional, Élise Lemaire, François Bertin.
18h24, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes dans votre 18-19 régional à 18h30. Ce sera le journal de Madeleine Vatel. Mais avant cela, on vous retrouve, Élise Lemaire, avec votre grand invité du soir, Claire Turand des éditions Perra.
Les éditions Perra qui ont déjà lancé une première collection par l'aide du livre des inventeurs, un livre qui est à la fois donc livre et jeux, on l'a compris, hein, il s'agit de mener l'enquête, de proposer aux enfants à partir de 9 ans de mener l'enquête. Il s'agit aussi de trouver un coupable. Est-ce que les enfants acceptent facilement d'être le coupable ?
Alors, ils tombent dessus par hasard. Donc, parfois, voilà, ils vont découvrir qu'ils sont coupables. C'est pas forcément la situation préférée pour eux. En leur demandant, les premières fois qu'on a testé les jeux, on leur a demandé ce qu'ils avaient aimé et moins aimé. Donc, en général, ils ont adoré. Mais le coupable nous disait, j'ai pas tellement aimé d'être le coupable. Alors, ça nous a fait réfléchir sur le personnage du coupable. Hein. Donc, sont des histoires dans lesquelles on a six personnages. Il y en a un, ou voire deux d'ailleurs. Parfois, il y a deux coupables. Et on a essayé d'imaginer des personnages qui soient pas des vrais méchants. Donc finalement, pour qu'on ait quand même envie un petit peu de s'identifier à eux et qu'on soit, voilà, que le jeu reste quand même un moment de plaisir. Donc nos coupables peuvent avoir une vraie quête. En tout cas, ils sont pas coupables pour le plaisir, mais ils ont des vraies raisons qui font qu'ils ont été amenés, soit à faire disparaître un tel, soit à voler quelque chose. Et ça, c'est important.
Parce qu'il y a du jeu de rôle, hein, vous nous l'expliquiez tout à l'heure. Le livre des enquêteurs, c'est donc un livre qui est conçu de telle manière qu'on puisse y jouer plusieurs fois ou c'est une seule fois ?
Alors, on joue une fois parce que quand on sait qui est le coupable, c'est moins intéressant de jouer une deuxième fois. C'est comme si vous lisez un roman policier, il est moins captivant. Alors après, on peut le relire parce qu'on a oublié. On joue donc une fois avec les mêmes enfants. On peut imaginer, en revanche, de garder l'ouvrage pour jouer une deuxième fois avec d'autres enfants. Et si on fait attention, c'est un livre d'activité, donc il se découpe. Mais si on découpe, j'allais dire, proprement les indices, on peut tout à fait constituer un jeu pour jouer avec d'autres enfants. Je pense, par exemple, à des classes. Il y a des instituteurs qui sont intéressés par le concept pour faire jouer les enfants. Donc à ce moment-là, on fait un jeu d'indices et puis on peut jouer plusieurs fois.
Vous lancez un autre livre-jeu, ça s'appelle 40 défis pour protéger la planète. Alors de quelle manière il se décline ce livre-jeu ?
C'est un projet qui est assez différent parce qu'il est vraiment ancré dans le réel, contrairement au Cercle des enquêteurs qui est une collection de fiction. Le projet de 40 défis pour protéger la planète, c'est d'inviter les enfants à travers le jeu à changer les choses petit à petit autour d'eux pour protéger l'environnement. Donc ce sont des petites fiches, 40 défis qui explorent différents sujets comme manger mieux sans gaspiller, désencombrer, nettoyer au naturel, jardiner, bricoler, être écolo à l'école, etc. Et ce sont des activités ludiques que l'enfant va choisir à son goût. Donc c'est un petit carnet avec une spirale et on le prend, on le reprend, on va faire choisir aujourd'hui de faire des goûters maison, pourquoi pas ranger sa chambre. Alors par exemple, on donne des idées. On propose d'organiser une troc party, par exemple, c'est un des défis. Et il n'y a pas de discours, c'est pas un ouvrage documentaire, c'est vraiment un livre d'activité où on s'adresse à l'enfant, c'est dessiné aux enfants à partir de 8 ans. Et l'idée, notre conviction, c'est un livre qui a été écrit par Sophie Free, notre conviction c'est que c'est en agissant qu'on change les choses et pas en parlant.
Donc apprendre aux enfants à être autonomes également à travers
oui.
Le livre-jeu.
C'est vraiment une recherche que une recherche que j'ai à travers les différentes collections, c'est l'autonomie, effectivement. L'idée, c'est que l'enfant puisse découvrir par lui-même. Finalement, les livres que j'imagine sont des livres qui permettent de vivre des expériences et de s'ouvrir au monde et de développer son autonomie.
On va continuer de parler avec vous des éditions Perra que vous avez fondées il y a un peu plus d'un an, Claire Turand, avec ce défi de se différencier dans un univers où il y a déjà beaucoup de propositions. On en parlera avec vous dans quelques instants.
Le 18-19 régional, Élise Lemaire, François Bertin.
Alors Élise Lemaire, vous êtes en compagnie de Claire Turand pour la troisième et dernière partie de l'entretien.
Et on parle de littérature et de jeux pour la jeunesse et lancer une maison d'édition en 2017 de nos jours, c'est plutôt osé. Beaucoup, beaucoup de choses sont proposées en termes de littérature, en jeux, en outils d'éveil aussi. Comment se différencier dans un univers où l'offre est pléthorique ? Parce que beaucoup, vous le disiez, il y a beaucoup de belles choses qui sont proposées.
En fait, un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, mais vous savez, sur le marché du livre pour enfants, il y a de la place pour tout le monde. Et ça m'a un peu, ça m'a rassurée et j'ai osé. Je me suis dit, effectivement, on peut vraiment imaginer que chaque livre est chaque collection, chaque maison a une personnalité propre. Et il y a plein de lecteurs et c'est aussi, finalement, le marché du livre pour enfants, c'est aussi un marché qui est dynamique grâce à ça. C'est-à-dire qu'on va, on va acheter des livres parce qu'il y a des livres. Donc, à partir, voilà, je crois qu'il faut, à partir du moment où j'ai osé me dire que j'avais ma place, j'ai osé démarrer, en fait. Et en revanche, c'est vrai qu'intuitivement, je réalise maintenant que j'essaye de faire des choses un peu différentes. Une façon d'approcher finalement l'objet livre, une façon d'approcher que fait un livre, et finalement les livres que je propose jusqu'à maintenant sont des livres qui vous sortent aussi de vous-même, puisqu'ils invitent à être à plusieurs, à échanger et à vivre des expériences. Et ça, c'est peut-être un tout petit peu en marge de ce qui existe aujourd'hui, ce qui est aussi une difficulté, parce que il faut expliquer. C'est-à-dire lancer une nouvelle maison d'édition avec un concept de livre-jeu qui est aujourd'hui pas connu, c'est compliqué. Ça fait une double, j'allais dire, c'est une double difficulté quand on explique aux libraires. C'est que non seulement on nous connaît pas, mais en plus on propose des jeux qui n'existent pas.
Il y a eu les fêtes de fin d'année récemment. Vous avez été plutôt bien accueillie dans les librairies et points de vente de la région, notamment.
Oui, oui, bien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, d'une manière générale, donc j'ai l'occasion de pouvoir aller rencontrer directement les libraires sur la métropole lilloise. Et j'ai un bon accueil. On a la chance en France d'avoir une librairie indépendante qui aime la création et qui sont des partenaires pour les petites maisons d'édition. Et ça, c'est assez précieux parce que sont eux qui sont vraiment mes premiers clients. Et comme je propose des livres qui ont besoin d'être expliqués et besoin d'être conseillés, j'ai vraiment besoin d'avoir des libraires qui puissent me suivre. Et donc il y a les libraires de la métropole, je vais les rencontrer, et puis ailleurs en France, j'essaye de téléphoner, et puis on essaye de gagner des nouveaux clients comme ça.
Il y aura la question Facebook dans quelques instants. Avant cela, un mot sur l'équipe. Une maison d'édition, c'est une équipe. De qui vous êtes-vous entourée ?
Alors, on a une organisation qui est très souple. Hein. Donc, j'allais dire que les premiers, qui est très souple au sens où il n'y a pas de salariés. Hein. Donc, les premiers, comment dirais-je, partenaires, c'est les auteurs. Et donc, aujourd'hui, j'ai travaillé avec trois auteurs. Donc, deux auteurs pour la collection Le Cercle des Enquêteurs, qui sont Pascal Duclerc-Mortier et Sébastien Doge. Et puis, Sophie Free pour l'ouvrage qui sort en mars. Donc là, évidemment, sans eux, rien n'existe, puisque c'est eux qui écrivent et qui conçoivent les histoires. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est l'aspect graphique et donc la capacité à faire des belles couvertures. Et là, je travaille avec une graphiste qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Cynthia Thierry, et qui conçoit les couvertures et qui illustre également, et celle qui va illustrer le livre de Sophie Free, 40 défis pour protéger la planète, qui sort en mars. Voilà. Et puis après, autour de ça, il y a des gens qui relisent. Donc ça, c'est les correcteurs. Il y a aussi les imprimeurs. Donc moi, je travaille avec une imprimerie qui est à Arras. Donc ça me permet de me déplacer pour aller vérifier au moment de l'impression. Ça, c'est un partenaire important aussi. Et puis, je dirais, globalement, après, il y a les proches et tous les gens qui vous soutiennent et qui vous donnent des conseils et qui vous donnent aussi des contacts.
Et c'est une maison d'édition véritablement régionale, hein, locale. Oui. On passe tout de suite à la question Facebook, François Bertin.
Et oui, c'est votre antenne, c'est votre radio, et vous avez donc la parole, chers auditeurs. Et c'est Eric de Bayeul qui nous écoute via l'application RCF, c'est ce qu'il nous dit. Il vous pose cette question. À l'heure du numérique et du tout piratable, notamment par les jeunes, y a-t-il un avenir dans le domaine de la littérature ?
Je sais pas par quel bout je vais répondre à cette question. Oui, je crois que oui, évidemment. Évidemment, il y a un avenir pour la littérature de jeunesse, pour la littérature. Moi, je continue à observer à quel point l'objet livre est captivant pour les enfants. C'est-à-dire que lire une histoire à un enfant, on est trois, on est soi, on est l'enfant et on est le livre, et il se passe quelque chose voilà, qui fait que il me semble que l'objet demeure un incontournable et un peu un médiateur, voilà, pour entrer dans un univers qu'on partage à plusieurs. voilà, on est un petit peu protégé aussi en France puisqu'on a une loi sur le prix unique du livre et que finalement on s'aperçoit que le livre numérique ne perce pas tant que ça, mais c'est aussi parce qu'il est à des prix qui sont très élevés. C'est effectivement moins le cas sur des marchés étrangers, notamment américains, où le livre numérique est beaucoup plus présent. Mais je dirais que sur le livre illustré notamment, moi je pense qu'il y a encore évidemment une place importante pour les objets livres. C'est peut-être moins le cas pour les textes du domaine public. Parce qu'on parlait de littérature, on peut parler de la littérature du domaine public où aujourd'hui, effectivement, elle est accessible de façon gratuite sur Internet. Et puis, voilà.
Et une dernière question, Claire Turand. On parlait de graphisme, de dessin tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des sujets ou des lignes à ne pas dépasser, des sujets tabous en littérature et jeux pour la jeunesse?
Alors, c'est marrant parce que quand vous me dites ça, bizarrement, ce qui me vient à l'esprit, ce qui me paraît important, c'est de faire des belles choses. Et je crois que le critère, en fait, c'est ça, c'est que ce soit beau. Et à partir de là, je vois, voilà, moi, je voudrais faire des choses qui sont belles, tant sur le fond que sur la forme, et qui puissent apporter quelque chose. Donc à partir de là, il y a sans doute forcément des choses que je ferai pas.
Les éditions Peyra donc continuent leur aventure en 2019 avec plusieurs projets, hein, un livre d'activité pour jouer à protéger la planète, donc on en parlait, Sophie Free, qu'on salue, les 40 défis pour protéger la planète, un quatrième titre dans la collection Le Cercle des Enquêteurs apparaître bientôt.
Voilà.
Et puis d'autres idées, d'autres envies.
Alors d'autres envies pour 2019 ou pour 2020, en tout cas il y a deux, je m'aperçois qu'il y a voilà deux pistes qui se sont ouvertes aux éditions Peyra. Il y a une piste qui est plus vers le jeu et une piste vers le livre, tout en restant sans doute sur du livre interactif comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Mais vers le jeu, il est probable que j'aimerais développer des collections qui soient plus axées justement sur de l'escape game avec une dimension pédagogique ou tout au moins avec du contenu.
Merci beaucoup Claire Turand d'avoir été avec nous ce soir pour parler de votre toute jeune maison d'édition.
Merci à vous.
Les éditions Peyra.